Les Américains se préparent, non sans une certaine fébrilité, voire un peu d'angoisse et d'anxiété, à cette semaine unique dans le calendrier américain, c'est-à-dire la semaine de Thanksgiving. Et quand on regarde et qu'on jette un premier coup d'œil déjà au mouvement de masse, vendredi, il y a deux jours, il y avait déjà 1 million de personnes qui étaient en déplacement. Allons à New York, retrouver en ce dimanche matin Richard Châteauvert. Bonjour Richard.
Bonjour Paul, c'est vrai ce que vous dites. Évidemment, il y avait 1 million de passagers qui sont passés au contrôle de sécurité des aéroports vendredi. C'est le deuxième plus haut depuis le début de la pandémie. Et on estime que 6 millions de personnes vont passer au contrôle de sécurité pendant cette semaine qui s'ouvre, la semaine de Thanksgiving. Donc, les CDC, Centers for Disease Control, les centres de contrôle des maladies, ont recommandé aux Américains de ne pas voyager, de rester chez eux, mais les Américains n'écoutent pas. Certains ont décidé d'aller rejoindre leur famille. Vous savez ce que c'est, ils traversent le pays pour se rendre chez eux. Mais les statistiques ne mentent pas, Paul. C'est ce que je vais vous dire ressemble à ce que vous a dit Denis Couture au sujet du Canada. Ça a pris 3 mois pour atteindre 1 million de cas d'infection au début de la pandémie ici aux États-Unis. Et là, on vient d'avoir 1 million de cas en 6 jours. C'est vrai qu'on teste plus maintenant.
Et là, vous dépassez aux États-Unis, vous dépassez les 12 millions.
12 millions.
12 millions de citoyens américains là, qui sont infectés par la COVID.
Oui, et ici, dans l'État de New York, le niveau d'hospitalisation est le même qu'il était au début juin. Donc, on sent vraiment que la situation se dégrade. Ici, dans la ville de New York, le taux de positivité dépasse 3 % et 3 % c'est le point critique. Le maire Bill de Blasio a annoncé que d'ici une semaine ou deux, les salles de restaurants qui actuellement sont ouvertes à une capacité de 25 % elles vont être obligées de fermer.
Imaginez à New York fermer des restaurants dans la semaine de Thanksgiving.
C'est épouvantable parce que les petits restaurants, les petits restaurateurs, ceux qui ont investi leurs économies parce qu'ils voulaient ouvrir, c'était leur rêve d'ouvrir un restaurant. Il y en a un grand nombre qui vont devoir fermer leurs portes. Il y a déjà 1000 restaurants qui ont fermé leurs portes ici à New York. Alors, c'est tout ce qu'on voit. Ce sont des commerces fermés, des restaurants fermés. C'est triste pour eux. Alors, puis en plus de ça, il y a des banques alimentaires. Hier encore, il y avait des banques alimentaires partout aux États-Unis, dans le parking à Dallas, dans le parking c'était Arlington au Texas, dans le parking du stade des Cowboys de Dallas, il y avait 5000 familles qui ont fait la queue pour recevoir un repas pour Thanksgiving. C'était la même chose ici dans le Bronx, dans le Queens. Et pendant ce temps-là, le Congrès ne fait rien pour adopter un autre plan de relance pour aider les Américains. Ça va extrêmement mal.
Ça va très mal. Et cependant, on sait que les vaccins s'en viennent. Enfin, il y en a deux là qui sont extrêmement prometteurs, Pfizer BioNTech et Moderna NIAID. Et la Food and Drug Administration a dévoilé hier un calendrier très important, Richard, pour l'homologation du premier ou des deux premiers vaccins. Ça va se jouer à partir de demain, à peu près jusqu'au 10 décembre, là, la FDA va se prononcer, va recevoir en tout cas les demandes des grandes pharma pour qu'on puisse utiliser en urgence ces vaccins.
Et la FDA a prévu une réunion le 12 décembre et tout ça va être diffusé, évidemment, pour susciter la confiance du public. Toutes ces réunions vont être diffusées sur YouTube. On va avoir accès aux délibérations. Mais encore une fois, il va y avoir quelques millions de doses d'ici la fin décembre. On sait que le fameux vaccin de Pfizer, lui, doit être maintenu dans une congélation de ses moins 70 degrés Celsius, si je me rappelle bien.
Oui, c'est
et,
ça.
Il va y avoir quelques dizaines de millions de doses disponibles au début pour les soignants, les personnes les plus à risque. Et nous, le public, je pense, Paul, ça va aller au mois d'avril, n'est-ce pas?
Ben oui et non, on ne sait pas, parce que ça va dépendre de la quantité de doses qui seront disponibles. Pfizer a déjà annoncé, Richard, 40 millions de doses dans un délai très court, c'est-à-dire avant même la fin de l'année. Est-ce que vous allez commencer à être vacciné aux États-Unis en janvier? Possiblement. Mais ce qui complique un peu l'affaire, Richard, c'est que autant le vaccin Moderna que celui de Pfizer nécessite deux doses.
Donc, oui, c'est ça.
Ben voilà, donc du point de vue logistique, là, il va falloir vacciner la même personne deux fois en 28 jours.
Oui, c'est ça. Mais il y a aussi AstraZeneca et l'Université d'Oxford. Vous vous souvenez que l'Université d'Oxford, au début, ils nous disaient que leur vaccin était extrêmement prometteur. Puis aussi, eux vont arriver avec un vaccin. Puis il y a même un quatrième vaccin qui devrait arriver. Donc, avec la concurrence qu'on a actuellement, on pourrait se retrouver d'ici, enfin, à 7-8 mois avec quatre vaccins. Les deux
facilement,
premiers sont...
Parce qu'hier, les Russes ont dit qu'ils allaient distribuer gratuitement leur vaccin Sputnik V.
Est-ce qu'on a confiance dans le vaccin russe, Paul?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne serai pas le premier en ligne pour recevoir Sputnik V. On va faire un... Non, je ne serai pas le premier. Thérèse non plus.
N'empêche que Richard nous avait dit, je ne me trompe pas, Richard, en disant que tu serais un des premiers à faire la file pour un vaccin.
Ah, absolument, absolument. Moi, j'ai très confiance dans la science. Ouais. J'ai confiance dans les vaccins. Et enfin, on va voir. Et peut-être que j'attendrai un mois.
Bon, oui, il y a des gens qui vont dire, allez vacciner les travailleurs de première ligne de la santé et on va voir comment ils vont réagir. Mais il n'y a pas de danger. Il n'y a pas eu d'effet secondaire dans les... études cliniques, surtout dans la phase 3, qui est la dernière phase. J'aimerais qu'on fasse un parallèle avec, j'aime pas le terme grippe espagnole, parce qu'elle n'était pas espagnole, cette grippe, puis là, je veux pas m'embarquer dans de longues explications. Mais la grande épidémie, pandémie de 1918, qui s'est étirée d'ailleurs jusqu'en 1920, a fait au moins, à travers le monde, 50 millions de morts. 50 millions. Et comment les Américains ont fêté Thanksgiving en 1918, à la fin de la guerre, mais surtout en pleine pandémie?
Mais ce qui est intéressant, Paul, c'est que, premièrement, ils appelaient ça la grippe. Ils savaient pas du tout que c'était un virus. C'était une épidémie de grippe. Alors, ils ont créé un vaccin contre la grippe. Donc, dans tous les journaux, on parlait de la grippe. Et ce qui est arrivé, c'était l'armistice. Vous vous rappelez, le 11 novembre, c'était la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, il y avait eu l'armistice, la signature de l'armistice et des célébrations dans toutes les villes américaines, dans les villes canadiennes également. Donc, les gens, et il n'y avait aucune distanciation sociale. À la suite de l'armistice, il y a eu une explosion de cas. Mais dans le même temps, il y a eu une campagne d'opposition aux restrictions imposées par les autorités. Une campagne menée par les propriétaires de magasins, les propriétaires de cinéma, les syndicats, les sociétés de transport. Donc, il y a eu assouplissement des mesures avant la fête de Thanksgiving. Et ce qui est assez intéressant, il y avait des mouvements anti-masques. Et le mouvement anti-masque le plus important, il était à San Francisco. Il y avait une ligue anti-masque à San Francisco. Et là, le grand titre, la veille de Thanksgiving et à Thanksgiving, c'est « on balance nos masques et on fête ». Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait dans l'ensemble des États-Unis. Ici, le New York Sun a titré « meilleur Thanksgiving de l'histoire de la ville ». Évidemment, un mois plus tard, il y a eu une explosion de cas. Même chose qui va se passer. Vous allez voir, Paul, en décembre,
ça va être effrayant.
Ici aux États-Unis, ça va être effrayant. Tous ces gens là qui vont en avion et qui, il y a beaucoup de gens aussi qui se rendent dans les stations balnéaires. Là, il y a Punta Cana, la République dominicaine, beaucoup de gens qui profitent de la fête de Thanksgiving pour aller sur les plages, comme si de rien n'était. Ils ont décidé que ils rationalisent, ils disent j'ai pris mes précautions. En passant, le docteur Anthony Fauci, que je pense tout le monde connaît, le célèbre immunologiste, lui ne passera pas Thanksgiving avec ses trois filles adultes. Il va passer Thanksgiving avec sa femme. Et on lui a posé la question: est-ce que vous prendriez l'avion? Et le docteur Fauci a dit: il faut calculer le rapport risque-bénéfice. Quel est le bénéfice qu'on retire pour le risque que l'on prend? Et il a souligné, évidemment, ça dépend de votre âge. Et il a dit, je vais avoir 80 ans le mois prochain. Donc, attendez-vous pas à ce que je prenne l'avion prochainement, à moins d'être obligé d'aller prononcer une conférence dans une ville extérieure. Mais le docteur Fauci, lui, reste à Washington. Effectivement, c'est la question. C'est le rapport risque-bénéfice. Quel quel bénéfice tirez-vous? C'est la même chose pour les fêtes de Noël chez vous au Québec. Je sais que c'est la controverse. Tout le monde veut fêter Noël. Mais encore une fois, il y aura Noël 2021. C'est peut-être
ouais,
mieux de survivre.
C'est difficile d'accepter ça pour beaucoup de gens, Richard. Ouais, reporter d'un an. Mais ce serait beaucoup plus sage. Et celles qui travaillent au sein, justement, du même comité national sanitaire, Deborah Birx, la docteure Deborah Birx.
Oui, qu'on n'avait pas vu depuis quelque temps, avez-vous remarqué, Paul?
Et que Donald Trump appelait affectueusement Deb. Il l'appelait Deb.
Parce qu'il aime ses foulards, comme nous aimons tous ses foulards.
Il avait dit ça. Il avait dit qu'elle avait des beaux foulards, c'était une belle madame. Presque ça qu'il a dit. Et ce qu'elle a dit hier, quand même, du point de vue scientifique, elle est extrêmement inquiète, Richard, parce qu'elle a dit le taux de contagion de cette vague qui déferle sur les États-Unis est absolument phénoménal et que beaucoup de gens qui sont asymptomatiques, qui n'ont pas de symptômes, qui ont déjà eu un test négatif, sont parmi les gens qui propagent le plus la maladie en milieu communautaire. Ça, c'est inquiétant.
Oui, mais ça, c'est le mythe aussi du test. Vous vous souvenez, à la Maison-Blanche, fin août, début septembre, il disait toujours, premièrement, personne ne portait de masque à la Maison-Blanche. Le président Trump interdisait le port du masque. Et il disait toujours, oui, mais le président Trump et nous tous, nous sommes les gens les plus testés, mais le test ne fait que démontrer que vous n'avez pas le virus au moment du test, mais 24 heures plus tard, vous pouvez avoir le virus. Faut quand même prendre ses précautions, même si on est testé. C'est ça l'histoire de dire.
Mais le docteur Birx a insisté là-dessus, Richard, en disant, mettons que vous vous faites tester aujourd'hui, vous, Richard Châteauvert, vous êtes négatif, vous repartez en société demain, et puis
24 heures après,
vous pouvez contaminer rapidement au moins 12 personnes. Alors,
exactement.
Voilà, c'est ça l'inquiétude.
C'est la raison pour laquelle les gens doivent être testés maintenant. Les CDC, Centers for Disease Control, recommandent aux Américains de se faire tester avant de faire un voyage international, avant de prendre un vol international, se faire tester avant, se faire tester après. Puis la raison pour laquelle il y a cette fameuse quarantaine, c'est parce que ça peut prendre 14 jours au virus pour se développer dans le corps humain.
Bon. Merci beaucoup, mon cher Richard. Bonne semaine de l'Action de grâce. Vous avez déjà votre dinde pour jeudi.
Oui. On va manger de la dinde, ça, c'est sûr.
Mais ben oui.
On sera pas 12.
Et on se reparle samedi prochain.
Salut, okay, Richard.
Au revoir, Paul.